à bout de souffle. Contrebassiste, improvisatrice, vocaliste, compositrice, théoricienne, poète, Joël Léandre est une figure dominante de la nouvelle musique improvisée européenne qu'elle donne à entendre dans le monde entier avec une boulimie irrépressible. Elle a joué avec l'Itinéraire et l'Intercontemporain de Boulez. Elle a travaillé avec Merce Cunningham et John Cage. On l'a entendu avec les grands noms du jazz et de l'improvisation. Derek Bailey, Anthony Braxton, George Lewis, Evan Parker, Bar Phillips, John Zorn, Carlos Zingaro, William Parker. Rétive aux ordres établis, ignorant les paravents des catégories, elle enregistre d'abondance, presque sans céder. Écrit pour la danse et le théâtre, réalise des performances multidisciplinaires et enseigne aussi au Mills College en Californie. Joël Léandre invente sa terrifiante création, chante, hurle et murmure, cajole, onomatope, peint, dépose poèmes et prose, tenace, cabrée, flagellante, inextricable, révoltée, maniaque, soulevante, absolue. À l'occasion de l'apparition du livre À voix basse, entretien avec Joël Léandre par Franck Medioni, le Petit Faucheux à Tours a souhaité proposer une table ronde en compagnie de Joël Léandre et Franck Medioni de France Musique. Table ronde avec la participation de Quentin Sirjac, pianiste, et de Bernard Aimé, ancien directeur artistique du Petit Faucheux. C'est ce dialogue entre Joël Léandre, Franck Medioni, Quentin Sirjac et Bernard Aimé que nous vous donnons à entendre. Entretien, rencontre, réalisé le 19 septembre 2009. Au Petit Faucheux, à Tours.
I Bonjour, merci au Petit Faucheux de nous accueillir. Je me présente, je m'appelle Franck Mézioni, je suis journaliste, je travaille à France Musique, producteur de l'émission Jazzistique. J'ai eu le plaisir avec Joël Léandre, grâce à qui on est réunis ici, de faire il y a 2 ans ce livre d'entretien qui est sorti aux éditions MF. Je vais vous dire quelques mots sur ce livre et puis après on va ouvrir le champ, les champs et la table ronde. Donc en compagnie, on va présenter peut-être les gens qui sont à nos côtés. Donc Joël Léandre, bien sûr, Quentin Serjac qui a joué à l'instant et Bernard Aimé, ancien directeur du Petit Faucheux. Je vais vous dire quelques mots sur ce livre. On s'est vu pendant 2 ans à ton domicile à Paris, toute une série de séances de questions, improvisations, déambulations, et suite à ça, on a dégagé des thématiques. On a dégagé 7 thématiques qui forment un livre étoilé, mais avec des lignes de force quand même. Son, leçon, influence, confluence, base, basse, improvisation, composition, nomade, monade, sillon, micro-sillon, poétique, politique. Ce livre, in fine, je crois, retrace bien d'une part le parcours musical de Joël Léandre, mais ce n'est pas seulement le parcours d'une musicienne, c'est aussi, je pense plus que ça, peut-être, comment dire, un voyage, oui, et puis comme je dirais un manifeste poétique, car il s'y manifeste une poésie, peut-être même, on en pourra en parler, une mystique, pour employer un grand mot, mais on peut le questionner. Et puis il y a ce qui est très touchant, je l'ai relu en venant ici à Tours dans le train, je me suis fait cette réflexion qui est simple, mais ce qui sort de ce livre aussi, c'est comme un manifeste politique, poétique, ou même, comme dirait Bernard Luba, poélitique. Mais c'est qu'il y a en œuvre, dans ce livre, la manifestation d'une musicienne en mouvement permanent, et aussi, surtout, une manière assez extraordinaire, et c'est pas parce qu'elle est là que je le dis, elle est à mes côtés, mais une manière assez bouleversante de vivre la musique au quotidien, dans la vie. Et la vie et la musique, je pense, ne font qu'un. Je vais terminer et pour dire que souvent, moi, ce qui m'intéresse, c'est une pensée en mouvement, et que ce soit en musique, en littérature ou en architecture. Il y a cette pensée en mouvement et il y a une adéquation parfaite entre l'œuvre et le musicien, ce qui n'est pas toujours le cas. Et j'ai été, je peux dire, assez intime avec un musicien qui s'appelait Steve Lacy, saxophoniste soprano, avec qui d'ailleurs Joël a fait un très beau disque. Et quand j'entendais ce musicien, le connaissant, j'entendais l'homme. Et quand j'entendais l'homme, quand je lui parlais, j'entendais la musique. Et avec Joël, c'est aussi le cas. Il y a une adéquation, je trouve, forte entre l'expression et l'être. Ces choses dites, je vais ouvrir, pas le bal, mais le débat. J'ai envie de commencer à une question préliminaire à Joël. Ce livre, donc, bon, il est sorti il y a 2 ans, il fait son chemin, il vit, il est lu. Qu'est-ce que... 2 questions peut-être préliminaires. Qu'est-ce qu'il représente et qu'est-ce qu'il a mis en jeu pour toi ?
M'excuser parce que je viens de subir une opération à main gauche. Donc j'ai, d'ailleurs, ça doit prouver et signaler un gros travail depuis de longues années. Avec cette noble, vaste, grand, sublime instrument, grave, lourd et gras, qui s'appelle la contrebasse. Alors, tu m'as posé une question. C'est une vie. Les questions que tu me posais à la maison sont le résultat de cette mise en forme aussi, parce qu'il y a une forme dans le livre avec ces 7 chapitres. C'est une vie avec la musique, avec l'univers du son, des sons, avec des réflexions assez quotidiennes, je dirais, de toutes ces rencontres que j'ai faites, multiples, voulues d'ailleurs, très jeune, en partance, souvent, en partance aussi de mon pays, en allant ailleurs. Le fait du voyage, du phénomène de partir à la rencontre d'eux, c'est un état en même temps d'immense ouverture, de danger presque, poétique, on le verra plus tard, parce que j'avais à peine 22, 23, où je tenais les mêmes propos que je tiens encore. Je suis une grande idéaliste, ou je ne sais, ou une utopiste encore. Je ne sais si c'est mon arrivée sur Paris fin 68. Je ne crois pas, c'est peut-être héréditaire ou moléoculaire, si le mot existe, qui fait que je me suis toujours questionnée, évidemment en tant que musicienne, mais en tant qu'individu, dans le quotidien, dans la société, dans pourquoi cet instrument, c'est quoi cet instrument, son positionnement. Et puis au fond, j'ai une réflexion, je crois, oui, c'est peut-être polémiste aussi, aussi politique, oui, de l'individu marchand et qui cherche et qui fouille et qui grandit au fond d'une multitude de rencontres avec des chocs, des ratages, des accidents même, et aussi une profonde solitude rentrée après un concert avec des potes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de potesses, c'est un autre sujet, un autre débat, et c'est des vies difficiles de oser prendre la parole. Le livre contient tout ça, d'une femme qui... On est là, mais il n'y en a pas assez. Donc, il faudrait qu'il y en ait plus, ce domaine de prendre la parole. Dans ce monde des musiques dites créatives, inclus avec le jazz, je ne viens pas du jazz, je l'aime, j'ai appris d'eux, j'ai appris d'en écouter, j'ai appris d'aller d'en écouter live, comme on dit, direct, puis de rentrer à la maison, puis de réfléchir. Je me vois à 18 ans à peine au River Bop à l'écouter JF, Kenny Clarke même et bien d'autres seul, parce que les années 70, je vous jure que s'il y avait quelques couples dames, couples, il n'y avait pas des filles seules, donc je buvais, je sais pas quoi, un jus de fruits, pas encore des bières ou des whisky, et j'écoutais une autre musique quand je rentrais au conservatoire et je jouais le concerto spaghetti saucisson, enfin, magnifique. Sur nous, on a des concertos spaghetti. Nous. Les bassistes, c'est pas très heureux comme répertoire. Donc beaucoup de choses, pour aller plus vite, m'ont révoltée. Est-ce que c'est cet instrument, sûrement, parce qu'il n'a pas de répertoire, parce qu'il a un positionnement assez débile, qui a décidé, décrété que la basse n'était pas soliste, que la basse était que d'accompagnement. Son positionnement, il est au fond. Pourquoi on met la basse au fond? Pourquoi on met pas devant? Enfin, toutes ces choses-là. Il n'y a pas de femme qui joue de la basse, c'est pas vrai. Et puis après, la vie du musicien. Et puis voilà, au fond, je te réponds, c'est une vie.
Tu as répondu à la première question. La deuxième question, tu as répondu sans vraiment y répondre. Qu'est-ce que ce livre-là, qu'est-ce que ça a mis en jeu ou révélé? Peut-être un questionnement, certaines réponses
Ben, c'est un concentré de... S'il y a des bonnes questions, il y a des bonnes réponses, n'est-ce pas? Donc c'est un concentré de ma pensée. Ce livre a construit et a renforcé ce que, il me semble, je suis bizarrement placée de parler de ça, c'est difficile de parler de soi, ce que je contiens. Donc ça a clarifié un travail. Même cet éclectisme, par exemple, on m'a souvent reproché. Il est vrai que j'ai beaucoup appris d'autres langages, d'aller vers la danse, d'aller vers les gens de théâtre, d'aller vers les poètes. On apprend. Alors on appelle ça la transversalité ou la transculturalité après, puisqu'après on joue aussi avec des musiciens qui ont une autre culture. Mais on grandit de ça. À vous de rentrer chez vous et d'être perdu, paumé, de potasser, de lire, d'entendre. Et c'est un labeur, comme je dis, et dans le film, évidemment, dans le bouquin, c'est un peu les mêmes années où il y a eu ces deux documents. Ça a renforcé, si tu veux, ou un peu nettoyé ma pensée et oser la prononcer, la dire. C'est ça, un livre, c'est comme presque un portrait que tu as fait.
Bernard Aimé, qu'est-ce qui est marquant à la lecture de ce livre ? Toi qui connais bien Joëlle, est-ce que c'est elle que tu as reconnue telle que tu la connaissais ? Il y a eu des étonnements, des questionnements, des agacements des...
Avec Joëlle, tout surprend à chaque fois. Donc il n'y a jamais une monotonie. Effectivement, on la connaît depuis longtemps, Petit Faucheux, parce que ça fait un certain nombre d'années que Joëlle vient jouer ici, dans différents contextes, hein, du solo à d'autres formations. On a pris l'habitude au Petit Faucheux d'être assez fidèles, nous, avec les musiciens. C'est pour ça qu'on est toujours très heureux de l'accueillir et qu'il est rare qu'on refuse les projets de Joëlle, sauf quand ils sont trop immenses pour nos faibles moyens, ce qui lui arrive aussi. Non, je ne peux pas dire que j'étais surpris, mais, sauf que, comme je disais, on est toujours surpris avec Joël, donc ça va dans ce même sens. Ça va dans le sens de sa musique, effectivement. Quand on lit le livre, on a l'impression d'entendre sa musique. Voilà, donc il n'y a pas plus de surprise que ça, mais un étonnement permanent qui correspond tout à fait donc, à la personnalité de Joël et à sa musique. Moi, j'aimerais bien, si tu me permets, juste poser une question à Joël pour rebondir sur ce qu'elle disait tout à l'heure, qu'elle était en permanence, en partance. Et je voudrais qu'elle explique surtout aux gens pourquoi elle joue si peu en France et tant à l'étranger.
Ah, il y a beaucoup de hasard aussi, parce qu'on rencontre beaucoup de gens dans ce métier, en général. Mais très tôt, je suis partie aux États-Unis. Alors, pourquoi je suis partie aux États-Unis ? Parce que j'ai rencontré John Cage. Il faudrait commencer au début, mais je ne voudrais pas parler que de moi, parce que ben on va parler que de moi d'ailleurs, on est là pour ça, pour parler que de moi. Donc, avec un parcours classique, je me suis rapidement intéressée à l'écriture. L'écriture de mon instrument aussi, à la composition donc. Quand je parle de positionnement, donc ça a à voir avec l'orchestration aussi, c'est quoi une contrebasse, c'est quoi les graves et tout ça. Et j'ai été très jeune, très rapidement, vers la musique contemporaine. Plus tard, je m'aperçois que toutes ces appellations, j'en ai souffert de ces choses-là, plus à mon âge. Mais la société culturelle est mal foutue de savoir qu'on a, dans ce pays qui est la France, qui est très ou assez conservative, enfin c'est très conservatif, oui, c'est très conservatif, on a besoin de ces classements et de ces tiroirs. Et l'artiste en général, pas que musicien, souffre de ça. Parce qu'on, voilà. Donc, venant et rapidement à la musique dite toujours savante, il y a des appellations, musique populaire, musique savante, vous savez. Je me suis intéressée à l'écriture et j'ai provoqué des compositeurs pour écrire pour cet instrument. J'en ai provoqué 40, une quarantaine, c'est beaucoup. Donc j'ai aussi beaucoup travaillé cette chose-là, tout en allant écouter le jazz. Alors cet amour, je dirais, de cet instrument m'a interpellée dans plein de champs, ANT, AMP. Et j'ai découvert dans la musique toujours savante, à travers certaines époques et de certains compositeurs, tout un champ de liberté où certains compositeurs, on peut nommer évidemment Cage inclus, musique graphique. Les années 70, arrivaient les quatre mousquetaires, là, Christian Wolff, Earl Brown, John Cage. Ils arrivent d'ailleurs à Darmstadt, le temple des musiques et de la recherche, je dirais, qui s'écrivait. Ici, de France, il y avait Boulez, il y avait Nono, il y avait Maderna, il y avait tous ces... Donc, je suis totalement là-dedans. J'ai vécu toutes ces époques-là et j'ai joué certaines partitions qui m'ont complètement, pas choquée, mais noblement choquée, émerveillée, où il y avait des petites parcelles d'ouverture, on appelle ça open form, des formes ouvertes, où on laissait, pas libre, puisque s'il y avait quand même des donnes, toujours écrit, mais où il y avait des libertés chez le musicien. On disait, voilà, vous pouvez choisir entre je sais pas quoi, do, sol dièse, fa et fa grave, si on rentre dans des trucs plus théoriques. Donc il y avait des libertés enfin où tout n'était pas polissé, parce que la musique écrite est polissée, cloisonnée, et le pupitre et la partition, de toute manière, est un filtre magnifique, parce que j'ai quand même immensément interprété la musique des autres. Mais on est quand même polissé. D'ailleurs, on s'aperçoit dans certaines et beaucoup d'interprétations que, je vais prendre l'exemple, excuse-moi, Quentin, je vais prendre l'exemple des pianistes dans certaines et beaucoup de musiques, c'est à la limite de comment on relève dans certaines sonates l'épaule et le coude à la même expression, parce qu'il y a un crescendo. Je veux dire, c'est quand même très policé. Donc, ces choses me questionnaient. C'est pas qu'elles m'ennuisaient, mais... Donc, au travers de la musique contemporaine, je me suis posé, là, j'ai dit, il faut faire quelque chose à moi-même. Et j'ai eu la chance de rencontrer Cage. J'ai par la suite rencontré des amis, dont une personne, philosophe d'ailleurs, qui me dit, Joël, qu'est-ce que tu fais là? Tu dois voyager, pars, file. Le musicien, il file. Et, sur les... et je suis partie, j'avais quoi, 26 ans, aux États-Unis. J'ai reçu une bourse américaine. Et c'est vrai que ça a été le catalyseur de beaucoup de choses. J'avais fini déjà mes études classiques. Évidemment que j'écoutais du jazz.